Bonjour et bienvenue à vous qui nous écoutez pour la deuxième émission de Première Classe. Notre équipe tient à remercier les nombreux auditeurs qui nous ont déjà suivis pour la première émission. Vous êtes sur Radio GECO, je suis toujours en compagnie de Sylvain.
Salut, salut.
Fred.
Salut.
Et Elisa.
Hey.
On souhaite aussi la bienvenue à notre nouvelle bénévole, Alice.
Ouais, Alice. Ouais, ouais,
Alice. Merci. Alice qui nous vient de Marseille, est passionnée d'art et de théâtre, elle a étudié la psychologie. J'espère qu'on pourra abuser de tes compétences en psycho pour des sujets.
Oui, vous pouvez abuser de moi, tout à fait.
Ça j'adore, promet j'adore. D'être bien intéressant. Ta première chronique portera sur quel thème ?
Sur les haricots blancs et la tomate.
D'accord, on va te renommer la psychologue timbrée, ça te va ?
Ouais, pas de soucis.
Ok, super. Pour la chronique musicale de Panda, c'est lui qui va annoncer l'artiste dont il va parler aujourd'hui parce qu'elle a vraiment un nom imprononçable.
Mais pas du tout, on va aller du côté de la Turquie pour parler de Nilkara İbrahim Gül.
Tes souhaits.
Merci.
On continuera avec Sylvain et Elisa avec leur chronique littéraire, l'actu ciné.
Et oui, et je vais vous parler d'un livre, mais vous verrez duquel il s'agit bien assez tôt.
Mystère.
Mystère. Et toi, Elisa, de quel film vas-tu nous parler ?
Alors moi, je suis allée voir le dernier film de Xavier Dolan. J'adore. Et on parlera harcèlement de rue avec la dernière BD que j'ai lue.
Ça, c'est plus sérieux.
Voilà, on attaque les sujets sérieux.
Ça fait un beau programme.
Wow. Oui.
On n'oublie pas non plus l'actu sortie et le retour sur une de nos sorties. On peut même improviser un petit point météo en vous disant que, à cause de la neige sur Apt, notre invité pour l'interview n'a pas pu venir aujourd'hui, mais ce n'est que partie remise. On commence tout de suite d'une façon un peu nouvelle, juste pour le plaisir de bizuter notre chère Alice, oh, parce qu'elle n'a jamais fait de la radio, donc c'est elle qui ouvre le bal.
Alors, aujourd'hui, nous allons parler goût et culture avec un célèbre mets du petit déjeuner emblématique de Grande-Bretagne, les beans. Vous savez, les haricots blancs cuits dans une sauce tomate aromatisée. En plus de les nourrir, les beans ont inspiré de grands artistes. Pour leur album Sell Out, sorti en 1967, les Who, groupe légendaire anglais, ont fait une série de photos sur les produits alimentaires quotidiens de leurs compatriotes. Ainsi, sur l'un de ces tirages, on voit le chanteur Roger Daltré assis dans une baignoire remplie à ras-bord d'haricots tomates. Mais pas n'importe lesquels, les Bucket Beans de Heinz. Il tient dans ses bras un énorme emballage de la marque, l'authentique boîte bleu ciel, aussi familière aux Anglais que la boîte rouge de tomato soup Campbell, immortalisée par Andy Warhol. Les Américains ont aussi leur propre version des beans tomates, mais deux fois plus sucrées et légèrement trop mous. Grâce au Woo, les beans sont donc entrés dans l'iconographie du rock. Et, petite anecdote, il n'y a pas eu de trucage lors de la prise de cette photo. Roger Daltré s'est littéralement retrouvé plongé dans des litres d'haricots, qui plus est glacés, car sortant du frigidaire.
Il a fait la grosse saucisse.
Avec une grosse saucisse douteuse qui flotte dans la baignoire, bien vu. Une bénédiction dont il aurait aimé se passer. Au niveau culinaire, les beans sont un véritable pied de nez à la bouffe moderne, qui casse le côté épuré des petits déjeuners politiquement corrects, où il est si bien vu de boire du thé, de manger quelques cuillères de muesli avec une tartine de confiture. Ou ceux qui s'enfuient de la charcuterie de bon matin sont vus comme des brutes adipeuses, sauf s'ils peuvent justifier d'une solide journée manufacturière par la suite. Ensuite, les beans tomates sont un bon compromis entre les muesli du bobo végé et le saucisson gras du prolétaire. Dégoulinant sur les œufs brouillés, tartiné sur du pain frit ou grillé, il saura donner à votre petit déjeuner consistant une note sucrée, se mariant allègrement avec votre jus d'orange. Et pour ceux qui rechigneraient encore de manger ce petit plat en sauce après l'aurore, pas de panique, il existe le brunch du dimanche. Le brunch institutionnalise le petit déjeuner des lève-tard, fêtard du samedi soir, en lui donnant une touche raffinée, très hype. Les haricots blancs, tomates, grâce à leur consistance meuble et fondante, épongeront les résidus d'alcool, retapisseront votre estomac ébranlé par le coup de dalle de 2h du matin et apporteront une touche sucrée au relent âcre de votre haleine.
On peut finir par manger ni trop gras, ni trop sucré, ni trop salé.
Beans anglais, haricots tomates français, en bocaux ou en conserve, c'est la touche originale d'un petit déjeuner réussi. Un conseil à mes amis séducteurs, n'hésitez pas à en servir à votre nouveau coup de cœur quand elle réclamera des croissants.
Ça m'a donné faim tout ça.
Je ne verrai plus jamais les beans de la même façon. Je n'avais jamais vu ce légume comme quelque chose d'aussi révolutionnaire et révoltant.
Eh bien voilà, c'était donc la première chronique d'Alice, en espérant que tu gardes cette patate tout le long de nos émissions.
Complètement. J'ai hâte de la prochaine.
Première impression, ça t'a plu? Tu veux rester avec nous?
Ah mais carrément.
Tant mieux, parce que si tu disais non, je me prenais un gros râteau en direct. Et comme je suis super sympa, je te laisse aussi faire le lancement de la première musique.
Alors c'est One Girl, One Boy de Chic Chic Chic. Sur le plateau de première classe, on retrouve tout de suite Elisa pour sa chronique cinéma, ou devrais-je dire sa critique.
Alors cette semaine, je suis allée voir le dernier film de Xavier Dolan, Juste la fin du monde. Alors vous allez me dire, il est sorti en 2016, donc ça fait un petit moment, mais grâce au festival de Télérama du 18 au 24 janvier, oui bon, maintenant c'est passé, j'ai pu rattraper mon retard. Alors il faut savoir que Juste la fin du monde est une adaptation d'une pièce de théâtre éponyme écrite par Jean-Luc Lagarce en 1990. Alors quelques infos sur ce jeune réalisateur qui est Xavier Dolan, il a 27 ans, il est réalisateur, scénariste, producteur et acteur canadien-français. juste ça. Alors, on l'a vraiment connu quand il a écrit le film « J'ai tué ma mère », qui a été présenté à la quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes en 2009. Quelques petites infos sur lui. C'est la voix québécoise, de Ron Weasley.
De Harry Potter.
De Harry Potter, oui, forcément. Et la voix de Taylor Lautner dans Twilight. Autre info aussi à savoir sur lui, c'est qu'il a, c'est lui qui a fait les clips vidéo d'Indochine dans College Boy et celle d'Adèle dans Hello. Et le film, pourquoi il me donnait surtout très très envie de le voir, c'est qu'il a remporté le Grand Prix du Festival de Cannes en 2016. Généralement, je ne suis pas trop d'accord avec le choix du jury, mais là, j'avoue que j'ai été véritablement conquise par ce film. Déjà, rien que le casting. C'était un casting de rêve. Nathalie Baye, Vincent Cassel, Léa Seydoux, Marion Cotillard et Gaspard Huliel. Je crois que j'écorche son prénom, c'est trop dur à dire. Voilà. Sachez qu'on l'a vu dans le dernier Yves Saint-Laurent avec Bertrand Bonello. On l'a vu dans Un long dimanche de fiançailles. Et pour ceux qui connaissent, il est très très mignon. Il a même une petite fossette sur la joue gauche qui... Moi, j'adore. Le seul défaut qu'on peut lui reconnaître...
C'est qu'il n'en a pas de fossette sur la joue droite.
Non, juste sur la gauche. Mais je crois que c'est une petite cicatrice. Il a toujours ce sourire en coin. Et c'est ça que je lui reproche. C'est que dans tous ses films, il a la même tête et la même voix. C'est chiant, mais c'est pas grave. On le pardonne parce qu'il est mignon.
C'est le Botox.
Non, il n'en a pas besoin. Vraiment, il n'en a pas besoin. Alors, pour en revenir à l'histoire du film, c'est l'histoire de Louis, un auteur de pièces de théâtre à succès, qui décide de revenir dans sa famille qu'il n'a pas vue depuis 12 ans. Alors, son retour a pour but d'annoncer sa mort prochaine à sa famille, ce qui va raviver des souvenirs, des tensions et de l'incompréhension. Alors, j'avoue que je suis restée sur ma faim, mais ce n'est pas tellement la fin qui importe dans ce film, c'est plutôt le parcours de quelques heures qui importe, bien plus que l'annonce de sa mort.
Ou le casting.
Oui, aussi le casting, ça motive pas mal. Voilà, parce que...
Non, mais c'est l'effet Dolan, hein, ça lui fait toujours cet effet-là à chaque fois.
Même Dolan, faut avouer qu'aussi, il est mignon. Hein. Oui.
Donne ton numéro de téléphone au cas où il t'écoute.
On va éviter.
Allez, je te laisse reprendre, si tu veux.
Voilà, alors pour reprendre, ce film... À savoir que ce film, il met à nu des liens familiaux complexes qui soulèvent une question. Petit clin d'œil à toi, Alice. Certaines personnes ne sont-elles pas déjà mortes à nos yeux, avant même que nous le soyons pour elles, afin de nous protéger ? Peut-on déjà se considérer comme mort symboliquement ?
Alors, c'est intéressant comme question, parce que les névrosés obsessionnels ont cette question existentielle dans leur tête. Suis-je mort ou suis-je vivant ?
Voilà, je suis névrosée alors.
Ça doit être ça. Voilà, donc moi, honnêtement, j'ai adoré ce film et je vous conseille de le voir si vous arrivez à le voir en DVD ou...
En DVD, ou en l'achetant en Blu-ray, en cassette vidéo, ou à la télé.
J'aime bien la prochaine fois un film qui met de bonne humeur, qui n'est pas dramatique et qui me fait pas chialer, promis juré.
Ce serait sympa, merci. Mais bon, cela dit, malgré le sujet, j'aime bien quand même quand tu traites des sujets à chaud comme ça.
Puis ça donne envie d'aller voir les films aussi.
Tout à fait. De toute façon, nous, on aime bien sortir, hein, comme on vous l'a dit chez GECO. D'ailleurs, Panda et moi, pour rebondir là-dessus, nous sommes allés samedi 14 janvier dernier à la soirée Le Fun dans le Swing au karting d'Aix-les-Milles, dont on vous a parlé dans la première émission.
Tout à fait.
Une soirée assez magnifique à vivre, même si on n'était pas danseur de swing, on pouvait quand même profiter du concert du Dixie Jazz Band, pardon, et admirer les danseurs professionnels qui tourbillonnaient sur des rythmes endiablés. C'était vraiment exceptionnel.
C'était vraiment super, avec une très bonne ambiance, des gens qui étaient vraiment lookés dans le style. C'était vraiment un retour en arrière.
Retour dans le passé, tout à fait.
Vraiment génial.
À faire.
On vous reparlera prochainement.
On a choisi de ne pas en dire plus parce qu'on reçoit bientôt sur le plateau de l'équipe d'Oh My Swing, pardon, qui parlera de ce joli projet.
Mais vraiment, on vous encourage à aller voir ce que c'est. Si la musique swing vous titille, allez-y, c'est vraiment génial.
Et on vous dira aussi les prochaines sorties à l'antenne. Sylvain a aussi une sortie à nous raconter. Il a testé pour nous un simulateur de vol.
Oui. Et oui, j'ai testé pour vous le simulateur de vol de l'Airbus A320 de chez Sim Airways. Alors, Sim Airways, c'est une entreprise qui se situe sur Aubagne et elle propose aux particuliers comme aux entreprises de piloter un simulateur d'Airbus A320. Donc, j'ai testé 2 heures en tant que passager. Malheureusement, ce n'était pas moi le pilote.
Encore heureux.
malheureusement. Mais je peux vous dire que j'ai été bluffé. Alors, comment ça se passe? Vous êtes invité à rentrer dans le cockpit de l'Airbus et là, vous rentrez dans une réplique exacte, au bouton près du cockpit d'un Airbus A320. Le pilote et les passagers s'installent et ensuite un instructeur pilote vous explique comment fonctionne l'appareil. Alors, imaginez-vous des centaines de boutons et de fonctionnalités. Donc, vous pensez que les instructions, ça dure un petit moment.
Je vois de quoi tu veux parler à peu près ici à la technique.
Ouais, mais il y en a vraiment beaucoup plus. Il y en a au-dessus, sur les côtés, de partout. C'est impressionnant. Mais bon, l'instructeur, l'instructeur pilote explique comment ça fonctionne et il se débrouille plutôt bien.
Tant que tu comprends bien, c'est l'essentiel.
Voilà, c'est ça, tant que tu comprends bien, c'est l'essentiel. Et on a commencé par un gentil tour de Marseille et ses environs. Puis nous sommes allés à Ajaccio, où la piste d'atterrissage est réputée compliquée, donc atterrissage un peu fracassant. Et nous sommes allés à New York City. Alors là, j'en viens à la partie la plus croustillante. Pour vous le raconter, il faut que je vous parle d'un fait historique. Je ne sais pas si vous avez vu le film Sully. Ou si vous en connaissez l'histoire.
Je m'en ai parlé, donc oui, mais sinon...
Voilà, donc en fait, le film retrace l'histoire du vol US Airways 1549, vol qui n'a duré que quelques minutes, puisqu'une horde d'oiseaux ont mis les moteurs de l'appareil en panne. L'histoire est passionnante. Le commandant Sully, ne pouvant pas faire demi-tour, a décidé d'amerrir sur la rivière Hudson, qui borde l'île de Manhattan, et il a réussi sans qu'il n'y ait un seul mort. Eh bien voilà, nous avons recréé les conditions exactes à la date et à l'heure près. Et notre pilote cobaye a essayé d'amerrir. Je dis bien essayer car nous nous sommes crachés en beauté. Le petit point négatif, c'est que le simulateur de chez Sim Airways n'est pas la crème des simulateurs. C'est-à-dire que le cockpit n'est pas mobile. Mais je peux vous garantir que les seuls effets de l'écran numérique vous suffisent d'avoir de sympathiques sensations et de prendre du plaisir. Et mon coup de cœur, bah, si vous êtes fan de catastrophes aériennes, vous pouvez demander à l'instructeur pilote de recréer les conditions exactes d'une des catastrophes de votre choix. Et ça, franchement, c'est plutôt
super.
Cool.
C'est bon à savoir.
On appelle ça un entraînement pour les kamikazes.
Donne pas trop d'idées comme ça, s'il te plaît, merci.
D'accord, d'accord.
Donc, tu recommandes ?
Je recommande.
À tester pour
c'est
nous
validé.
Aussi,
alors.
Donc pour l'agenda des prochaines sorties, on va faire un petit point ensemble. Vendredi 27 janvier à 21h au Portail Coucou de Salon de Provence, le groupe Y-Star sera en concert pour la tournée de leur 6e album Full Color. Samedi 28 janvier, c'est Caravan Namasté qui sera en concert également au Sonographe au Thor à 21h. Musique du monde de bien de chez nous, ils mêlent leurs différentes influences pour un résultat qui vaut vraiment le détour. Dimanche 29 janvier, vous pourrez découvrir la première édition des Dimanches de la Canebière à Marseille. Chaque dernier dimanche du mois, la ville animera la Canebière pour donner un nouveau souffle à cette artère un peu laissée à l'abandon. N'est-ce pas ? Très belle initiative à l'occasion des 90 ans de cette avenue, pardon. Mêlant art de rue, concerts, marché des petits producteurs et exposition. Espérons donc que ce projet tienne ses promesses et réponde aux attentes culturelles des Marseillais. Affaire à suivre. L'événement qui a retenu mon attention pour ce week-end, c'est le ciné-festival humaniste Terre et Avenir qui se déroule du 25 janvier au 1er février au cinéma Les Arcades à Salon de Provence. 8 soirées thématiques autour de nos ressources, de nos besoins, avec des projections, des rencontres de réalisateurs et différents débats. Et on termine l'agenda avec du spectacle mardi 31 janvier et mercredi 1er février à 22h. Partez à la rencontre des arts du cirque avec le cabaret électrique au Théâtre des Salins de Martigues. Vous pouvez retrouver toute l'actualité sur notre page Facebook Radio Gecko, rubrique articles. Et on se retrouve juste après Rock'n'Roll Queen de The Subways. You are the sun, you are the only one. My heart is blue, my heart is blue for you. We'll be right back. cette seconde émission, Sylvain va présenter sa chronique littéraire sous un autre angle. Il semble qu'il ne veuille pas nous dire de quoi il va parler. On vous laisse deviner.
Nous nous plongeons dans un univers mystérieux, mystique, incroyable, magique. Un univers rempli d'animaux fantastiques, de mots qui sonnent comme du latin, où la peur, la joie, le suspense sont au rendez-vous. Reconnaissez-vous cette musique ? Ah, je pense que oui, pour beaucoup d'entre vous. Cette chanson, vous l'avez reconnue, elle est tirée de la saga Harry Potter. Composé par le grand John Williams, qui est aussi à l'origine des musiques de la saga Star Wars. Bref, vous l'avez compris, nous allons nous intéresser à l'un des nombreux maillons qui composent cette saga. Un nouvel élément frais et qui sort de l'ordinaire. Non, je ne vous parlerai pas des Animaux Fantastiques, ce film qui est sorti récemment au cinéma. N'oubliez pas que ma chronique est littéraire et non cinématographique. Car avant tout, la franchise Harry Potter a explosé dans le cœur des fans grâce à ses romans. Oui, vous savez, ces romans. Harry Potter à l'école des sorciers. Harry Potter à la chambre des secrets. Harry Potter. Oui, ce sont aussi des films. Non, mais ces films ne sont que des adaptations des romans déjà existants. Bien entendu, ils rentrent dans le cadre de la saga. Mais ce sont bien les romans qui ont rendu la saga si légendaire. Qu'on le veuille ou non, ce sont les romans. Alors, de quel livre nous allons parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous parlerons de Harry Potter and the Cursed Child, ou bien Harry Potter et l'enfant maudit. En version française. Livre écrit par John Tiffany et Jack Thorne à partir d'une histoire originale de J.K. Rowling. Harry Potter et l'enfant maudit, quel nom tranchant. Décidément, J.K. Rowling n'est pas tendre avec notre héros. Mais qu'a-t-elle bien pu lui réserver dans cette nouvelle aventure ? Nous en discuterons au cours de cette chronique. Mais avant tout, j'aimerais d'abord vous parler du format du livre, car vous m'avez bien entendu, le livre n'a pas été écrit par J.K. Rowling, mais par deux auteurs, qui sont Jack Thorne et John Tiffany. Mais qui sont-ils ? Ils sont si peu connus du monde littéraire français. Jack Thorne n'est autre qu'un scénariste et dramaturge anglais qui écrit pour le théâtre, la radio et la télévision. John Tiffany, un metteur en scène britannique. Alors, en quoi est-ce qu'un dramaturge et un metteur en scène viennent remplacer l'écrivaine qu'est J.K. Rowling pour le 8e tome des aventures du sorcier à la cicatrice ? La réponse est toute simple, ce livre n'est pas le 8e tome de la saga. Mais une pièce de théâtre originale contant les aventures d'Harry, ses amis ainsi que ses enfants. Une pièce de théâtre, oui, une pièce de théâtre, dont l'action se déroule plusieurs années après la bataille de Poudlard. Harry a trois enfants avec la sœur de Ron Weasley, Ginny, dont un d'eux sera le personnage principal de l'histoire. Et oui, c'est bien Albus Severus Potter qui est le héros de cette histoire, ou bien l'anti-héros. Il se démarquera de l'image du glorieux Harry, que ce soit à l'école ou bien chez lui. Il s'en démarquera tellement que son meilleur ami ne sera autre que Scorpius Malfoy, le fils du meilleur ennemi d'Harry Potter. Dites donc au revoir au Quidditch, à Gryffondor et à la lutte acharnée contre les forces du mal. Bien entendu, les forces du mal qui ont pris un sacré coup depuis la défaite de Voldemort. De celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Plus mince. De toute façon, on peut prononcer son nom puisqu'il a été anéanti. Quoique... Je vous laisse lire le livre pour en être si sûr. Bien entendu, pour ne pas tomber dans la répétition, il a fallu que J.K. Rowling, qui n'est autre que la scénariste de cette pièce, trouve autre chose. Centrer l'histoire sur le fils d'Harry était un bon début. Donner une autre image à un Potter que la célébrité la réussite aussi. Mais il manque l'ingrédient essentiel à la réussite d'un bon Harry Potter. Et cet ingrédient est la bêtise. Oui, la bêtise. Combien de fois les mauvais choix du jeune sorcier ont permis au suspense de rendre l'histoire tellement plus intéressante ? Eh bien, cette fois-ci, c'est par un mauvais choix d'Albus Potter que toute l'histoire se met en place. Et c'est d'autant plus grâce à ce mauvais choix que le ministère de la magie pourra peut-être éviter un retour des forces du mal dans cette Angleterre si paisible. Ce qui est intéressant avec cette œuvre, c'est que tous les éléments du fanfiction sont présents. On y redécouvre des événements ayant eu lieu dans les tomes d'origine, ou bien des personnages comme Cédric Diggory, Bane le Centaure, Severus Rogue ou bien Dolores Umbridge. Bref, un livre qui plaira sûrement aux fans de la première heure. Et si la pièce vous intéresse, vous pouvez prendre les informations sur le site harrypotterstheplay.com. J'espère que cette chronique vous a plu. Et à bientôt.
À moi, oui. Merci Sylvain pour cette chronique originale. Merci. Je vous suggère une petite pause musicale juste avant de poursuivre.
Oh, ma da porta vi chi va bene. si tu la parla miez americano. Quando si fa l'amore sotto la luna, come te vengono in cave di I love you. Papà l'americano.
C'était We No Speak Americano de Yolanda Be Cool. Et tant qu'on est dans les noms super compliqués à dire, on va tout de suite enchaîner avec la chronique musique de Panda.
Et bienvenue tout le monde dans la chronique musicale de première classe, pas vraiment populaire mais jamais élitiste. Chaque émission, nous revenons sur un artiste ou un genre musical. Cette semaine, nous partons du côté de la Turquie pour vous faire découvrir une artiste très méconnue en France mais qui est une star dans son pays, Nilkara İbrahimgil. Et effectivement, ce n'est pas facilement prononçable. Au Scrabble, ça fait des points. Son nom ne vous dira rien, j'en suis sûr. C'est normal, ses albums sont introuvables en France et pendant des années, ses morceaux ne pouvaient être lus sur YouTube pour une question a priori de copyright local. Pourtant, elle est signée chez Sony Music. C'est la Björk turque, comme on l'appelle là-bas. Elle ne trouve aucune audience en Occident, c'est bien dommage. Elle est en revanche assez populaire dans les pays des Balkans, faisant notamment quelques apparitions sur la télé locale. Mais alors, comment ai-je découvert cette artiste ? Eh bien, du temps où je travaillais dans la pétrochimie, où mon métier me demandait de monter sur des bateaux du monde entier, sur un bateau turc, j'étais en train de rédiger mon rapport. Une musique tournait en fond et m'a fait arrêter d'écrire pour l'écouter tout simplement. Il s'agissait du morceau que vous entendiez, Sevmiyorum, Sevmiyorum. Je vous en fais écouter un petit plus. Morceau très très entraînant. Il veut dire j'aime, je n'aime pas. Un morceau dynamique, pop, avec de légères influences orientales. Un peu comme tout le répertoire de cette chanteuse, une vraie world music actuelle mélangeant pop, rock, rythme arabisant et influence de musique du Bosphore. Bien que de fille de musicien, rien ne prédisposait à en faire son métier. En effet, elle a commencé ses études dans un cursus universitaire de la publicité. C'est en composant ses premiers jingles et autres morceaux de réclame qu'elle a décidé de se pencher sérieusement sur la voie artistique. C'est en 2002 d'ailleurs que sort son premier album, Nil Duniyeza. Si, pardon.
Aussi.
Si des turcophones nous écoutent, soyez indulgents avec ma prononciation du turc Du turc, je ne l'ai pas pris, j'avoue, en langue étrangère au collège. Désolé. C'est un vrai raz-de-marée, un succès immédiat. Son single « It's All Extra Large » tourne en boucle sur MTV Turquie. Morceau ultra pop-rock, mais avec toujours ses influences. Il est entraînant et aussi facile d'accès. Le clip lui-même est à condensé de sa musique. Nous le coterons d'ailleurs à la fin de cette chronique. Le second album, lui, sera plus l'album de la consécration, avec l'énorme « Agbaba ». Le visuel de ses clips sont toujours aussi soignés. Les morceaux cherchent de plus en plus d'influences différentes. Son chant, tantôt calme, tantôt festif et tantôt carrément fou, lui valent son surnom, d'ailleurs à ce moment-là, de Björk Turk. Ses lives sont de véritables réussites, elle joue à guichet fermé de partout où elle passe. Son troisième album marquera son engagement politique, sa volonté de porter haut et fort la démocratie. En 2006, année de la sortie de l'album, la Turquie est plus que jamais un sérieux candidat à l'intégration de l'Union européenne. Et Neil pousse dans ce sens, en se sentant réellement le point d'ancrage entre l'Occident et le Moyen-Orient. Elle milite d'ailleurs pour le droit des femmes ainsi que le combat contre les islamistes radicaux. Elle est née à Ankara et elle sent là-bas une poussée de l'extrémisme religieux. À l'époque, peu prennent au sérieux ces artistes libertaires à la solde de l'Occident. Un petit parallèle avec les bobos d'ici. Bref, 10 ans plus tard, on connaît hélas le résultat. La même année, elle signe un morceau brillant pour un succès cinématographique turc, Yash 18. Je dis Yash car j'avoue mon ignorance de la prononciation aussi, voilà, des chiffres turcs. Ça non plus, je ne l'ai pas appris, j'en suis désolé. Et elle y évoque la pression des jeunes quant à la réussite universitaire à tout prix, la perte de repères familiaux. Et c'est un point central d'ailleurs des paroles de Neil. Son dernier album en date comporte justement le titre qui lui a fait passer les frontières et que nous écouterons bien. Enfin, non, que nous avons écouté d'ailleurs. Tiens, voilà, allez, je
allez, c'est freestyle aujourd'hui, voilà. C'est comme ça.
C'est la pluie.
C'est les joies du direct, le mauvais sang.
Bien plus centré sur les problèmes sentimentaux, ils paraissent bien plus légers que les autres, bien plus formaté MTV. C'est sûrement pour cela qu'en gagnant des auditeurs à l'international, elle a perdu dans son propre pays. Les fans lui reprochent de trop laisser tomber son monde si original pour aller vers un univers bien plus aseptisé. Il en reste quand même d'énormes tubes qui marcheront hein, tout de même, mais correctement au box-office.
Plus populaire.
Plus populaire, voilà, plus formaté. Depuis 2009 d'ailleurs, elle multiplie les featurings. 2016 devait être alors l'année de son nouvel album, mais celui-ci a été encore repoussé, encore une fois. Nous avons, quoi qu'il arrive, une discographie riche, emplie de tubes, qu'ils soient carrément dansants ou plus personnels, en écoute ou au calme. Neil est une artiste complète, qui mérite vraiment d'être découverte. Le turc étant une langue chantante, son écoute est agréable et facile. Bref, si vous aimez les musiques mélangées, originales et très bien structurées avec un grain de folie, Neil est fait pour vous. Je vous laisse comme promis en compagnie du morceau XL, Extra Large, ça c'est déjà plus facile pour moi, et qui est sûrement le plus abordable de son répertoire.
Bana extra large, bana extra large, bana extra large. Gidim ama benim boyum kaç, benim kilom kaç, daha benim yaşım kaç. Onun aşkı bana extra large, bana extra large, bana extra large. Gidim ama benim boyum kaç, benim kilom kaç, daha benim yaşım kaç. Çok değil arar, o beni arada bir. O benim hayatımın tuzu biberi. Özledim, iyi şeyler düşün dedi. Gözlerim bir onun yolunu bekledi. Onun aşkı bana extra large, bana extra large, bana extra large. Gidim ama benim boyum kaç, benim kilom kaç, daha benim yaşım kaç. Onun aşkı bana extra large, onun aşkı bana extra large. Onu çok sevmek söylemeye yarar. Yapıştırırsın, o bir daha kırar. Söyledim, sana bir şey olmaz dedi. Gezindim, bulamadım onun gibisini. Onun aşkı bana extra large, bana extra large, bana extra large. Gidim ama benim boyum kaç, benim kilom kaç, daha benim yaşım kaç.
Onun aşkı bana extra large. Onun aşkı bana extra large.
Pour cette chronique toujours aussi riche et complète, je pense qu'il est temps de laisser la place à Elisa, notre cinéphile préférée, qui nous a préparé une petite actu des sorties cinéma.
En même temps, je suis ta préférée, mais je suis la seule qui parle de cinéma. Donc forcément, je suis la préférée.
Tu sais, Sylvain pourrait être ma préférée aussi par moment. Hein.
Ta préférée, Sylvain, ta préférée.
Ma préférée. Ta préférée.
On a vu tes photos pour le jour de l'an. On a vu. Cherche pas.
Ah. Ça tout sent est les dossiers. Dit.
Sur la page de Radio Gecko, sur Facebook.
Un peu de d'accord. Concentration, la Radio Gecko. Alors cette semaine à l'affiche, il y a Tous en scène avec la voix de Patrick Bruel, La La Land avec Ryan Gosling avec Ryan Gosling, Emma Stone et John Legend. Un joli film à l'eau de rose. L'Ascension avec Ahmed Silla, Resident Evil, chapitre final. Et il y a aussi The Boyfriend, pourquoi pas lui, avec James Franco et Bryan Cranston. Je ne sais pas comment
tu
on dit.
Tu te compliques la vie à dire des noms anglais.
Mais oui, mais parce que quand on dit le nom d'un film, et je pense que vous serez d'accord avec moi, ça ne nous dit rien. Et généralement, on y va aussi mais pour le casting. Sûr. Voilà, là, tu te dis The Boyfriend, pourquoi pas lui, tu t'en fous. Alors, tu dis James Franco et là, tu dis ah ouais, pourquoi pas.
Mm-hmm. Pourquoi pas lui ?
Et donc,
pourquoi pas lui ?
Ton préféré ?
Voilà. Le préféré. Pour l'instant, j'ai pas encore choisi ce que j'irai voir. Peut-être Resident Evil. Voilà. La semaine prochaine, par contre, à ne pas rater, il va y avoir la sortie du Le Cercle, The Ring. Encore un. Mais bon, quand on est fan de films d'horreur, ben forcément, on ne va pas le rater. Mais, voilà. Et il y aura aussi, pardon, excusez-moi, Jackie, le film de Jackie avec Nathalie Portman. Donc c'est l'histoire de Jacqueline Bouvier Kennedy, First Lady, admirée pour son élégance et sa culture, qui tente de surmonter son deuil face à la violence de l'assassinat de son mari, le 35e président des États-Unis, John F. Kennedy.
Merci Elisa.
De rien.
T'as oublié de dire ton voilà voilà.
Voilà, excusez-moi. Voilà voilà. Ok, on va faire ça. Voilà voilà à chaque fois.
Ça marche. Merci beaucoup Elisa. Avant de te retrouver pour nous parler de la BD que tu as lue.
Oui.
On va s'écouter une petite musique, encore une fois, de Louise Attaque, Fatigante.
Les blanches fraîches le matin, ouais, les douces tendres, les sereines, ouais, les excellentes. Oh, ouais, dix soirées, on va danser ce soir au matin, coucher, ouais, les désespérantes. Oh, elle dit toujours bonjour comme ça, ouais, elle dit toujours au revoir comme ça, ouais, elle dit toujours je veux ça, ça, ça, ouais, les fatigantes. Voilà de la suite dans les idées, soudain elle te dit bonsoir, à demain. Mais quand elle danse, belle franche, une reine. Oh, elle est pour moi, tout ça pour ma reine.
encore comme ça, ou elle dit toujours je veux ça, ça, ça, ou elle est fatigante. Elle est pour moi.
Avec Elisa pour parler d'un sujet un peu plus sérieux, la BD Les Crocodiles, qui semble l'avoir bien inspirée.
Et oui, c'est encore moi. Alors cette semaine, je te parle harcèlement de rue avec la dernière BD que j'ai lue, Les Crocodiles de Thomas Mathieu. Alors c'est une BD dans laquelle on retrouve des témoignages réels, et j'insiste là-dessus, de femmes qui se font harceler quotidiennement dans la rue. Alors ce qui m'a beaucoup touchée et émue, c'est le fait que ce soit un homme qui parle et sensibilise sur le sujet, donc Thomas Mathieu. D'autant plus que la BD est du point de vue de la femme, et dedans, les hommes sont représentés par des crocodiles, des prédateurs. Ils représentent des prédateurs. Alors dans cette BD, on retrouve une réelle envie de déranger et de choquer, qu'on retrouve dans ces témoignages à chaque fois. Alors, à la fin même, on peut retrouver des textes de féministes ou d'associations qui luttent chaque jour contre le harcèlement de rue. Dans le monde... Mais justement, parce que cette chronique me tient à cœur et je veux pas... Voilà. Alors, dans le monde de l'Internet, tu peux également trouver des sites comme Paytashneck qui visent à la sensibilisation, et on y retrouve des témoignages de harcèlement sexiste dans l'espace public. Alors le principe, c'est que toi, comme moi, on peut y inclure notre témoignage et le faire partager au monde entier. Et parce que je suis trop cool, je vais t'en citer quelques petites phrases.
Âme sensible, s'abstenir, parce que c'est vrai que ça paraît banal, mais c'est quand on voit ces témoignages, c'est
oui, c'est de
si
la
on y pense, c'est oui, on dur. Peut en rire, mais en fait, quand on y pense vraiment, c'est assez dur.
De la belle poésie.
Je te laisse les citer.
Alors, voici les petites phrases. Ton décolleté, c'est comme un paquet de Chocapic. Quand on le regarde, on a envie de fourrer sa main dedans. Dommage que Pâques soit passé. J'aurais bien 2 œufs à te faire manger. Sérieux, quand j'ai maté ton boule, j'ai vu des étoiles en sortir. Oh mademoiselle, franchement, vous êtes charmante des fesses. T'as de belles cuisses, j'aimerais bien que tu les écartes pour moi, sale pute. Et toi, tu sais qu'avec ton cul, tu pourrais tout avoir ? Trêve de plaisanterie. 82% des Françaises de moins de 17 ans ont été victimes de harcèlement de rue. Pour en revenir à la BD de Thomas Mathieu, c'est une jolie façon de parler du harcèlement. C'est fait de manière intelligente et c'est exprès pour sensibiliser ceux qui ne sont pas victimes et ceux qui pensent que ça n'existe pas. Parce que oui, ça arrive. Et la plupart des gens ont tendance à confondre le harcèlement de rue et la drague. Et tu sais quoi ? La drague et le harcèlement de rue ne sont pas la même chose. Et il est anormal de les confondre. La drague se construit, se joue à deux, là où le harcèlement est la responsabilité d'un individu qui ignore volontairement l'absence de consentement de son interlocuteur. La drague est une main tendue, le harcèlement est une main qui s'abat.
C'est exactement là où on voulait en venir, puisqu'avec un tel sujet, on ne pouvait pas passer à côté pour la question du jour. Donc la fin de la deuxième émission approche, c'est donc l'heure de...
La question du jour.
Et on va encore la faire dire par un homme, puisque c'est un sujet assez féminin. Panda, la question du jour, c'est quoi ?
Eh bien, aujourd'hui, on va justement se poser la question, savoir où est la frontière entre la drague et le harcèlement de rue.
Tout à fait, comme disait donc Elisa.
Ça. Je vous ai jeté le bâton et moi, j'attends vos retours. Oh. Allez-y.
Ah oui, au fait, il y a la pluie, donc si vous ne vous en faites pas, c'est les aléas du direct. Sylvain ?
Ah bah moi, j'ai été quand même assez bouleversé par certaines phrases qui sont sorties.
Ouais. Et c'est les plus soft. Il y en a des beaucoup plus trash.
Tu peux pas nous le dire.
Tout d'abord, qui sur le plateau n'a jamais vécu, enfin, il y a notamment trois filles, deux garçons, qui n'a jamais vécu de harcèlement de rue.
Non, mais moi, même en tant que garçon, je l'ai vécu.
Voilà.
C'est
pour ça, même en tant que garçon, ils l'ont vécu. Donc,
après, et par des hétéros et par des homos, les deux. Hein,
Alice,
donc,
Ah ben moi, pas trop, parce que j'ai pas des gros seins, mais quand même.
Mais t'as un cul, pardon.
Toutes les photos sur le Facebook de Radio Gecko.
Alors, je ne sais pas déjà, pour ma part, si être apprêtée, être en jupe, fait une différence. Parce que personnellement, alors, là où je pense que c'est grave, c'est qu'on en arrive, les femmes, des fois, à se dire « je ne vais pas mettre une jupe pour ne pas me faire emmerder dans la rue
ouais. ».
Et ça, c'est grave. Dire « ouais, aujourd'hui, je mets le jogging, je mets les baskets, parce que je mets une capuche, parce que j'ai envie d'être tranquille, je n'ai pas envie d'être apprêtée, pas qu'on drague ». Et je pense que déjà...
Ouais, c'est un camouflage. Ouais. Tu regardes l'autre, mais au final, ils vont tout de même regarder. Parce que si tu te caches, ils vont se dire...
Pas que regarder, justement.
Et c'est ça. Oui, et te parler, parce qu'ils se disent, ouais, pourquoi tu te caches ? Ils vont fantasmer sur le voile qui est...
Surtout que finalement, même les fois où tu t'habilles quand même en basket-casquette, eh ben, tu te fais quand même draguer au final. Donc,
Non, mais un peu draguer, harceler plutôt, parce que la drague, à la limite... Bon,
quelle est la limite ?
Quelqu'un qui tente, voilà, il dit... Enfin, je sais pas, il tente sans être lourd et que tu l'ignores ou tu réponds pas ou tu réponds par le négatif et le mec, il se casse. Bon.
Ouais. Ça arrive.
Mais après, pour certains, ces phrases qui sont blessantes, pour beaucoup, c'est de la drague.
Non, mais
quoi.
Là, c'est même pas de la drague. Là, c'est même plus des phrases. Voilà. Je suis désolé, le gars qui drague comme ça, soit
il a rien. Et oui, mais pour beaucoup d'hommes, le problème, il est là. Quoi. Le problème, il est que pour beaucoup d'hommes, quand même, c'est dire ce genre de phrases.
Mais je pense qu'il attend même pas de réponse.
Et pour beaucoup de femmes, parce que déjà, il y a des femmes qui l'acceptent.
Tout à fait.
Ça, déjà, il y a des femmes qui ne le comprennent pas. Et comme je disais dans ma chronique, c'est qu'ils ne savent pas ce que c'est. Il y a beaucoup de femmes qui disent « Ah ben oui, ben c'est normal parce que je suis une femme. »
Il y a des femmes qui se sentent flattées aussi.
C'est ça. Sauf que non, il y a une frontière. Il y a ce jeu de drague. Là, on va parler de drague parce qu'on est deux à jouer à ce jeu-là, parce qu'il y a des paroles, parce qu'il y a des regards. Et puis, il y a le harcèlement. Voilà, il y en a un qui n'est pas d'accord et il ne faut pas forcer. Et c'est là que ça devient problématique.
Point de vue de la psychologue.
Ben moi, je pense que dans le harcèlement, comme tu dis, le bâton qui s'abat, moi, je pense qu'il balance des phrases comme ça, genre écarte les cuisses, des trucs poétiques,
oui,
comme tu as dit.
Pour
mais ils savent que la personne ne va pas répondre, va faire semblant de ne pas entendre, etc. Alors que dans la drague, comme tu disais, il y a quelque chose qui se joue à deux, dans le sens où c'est une amorce. « Oh, bonjour, vous êtes jolie, un compliment gentil. » Ou un truc sur la manière dont elle est habillée. Enfin, un truc qui apparaît à sa vision et rebondit dessus pour qu'il y ait un dialogue qui s'enclenche. Alors que balancer
des
phrases...
Oui, balancer des phrases comme ça, c'est plus
tu dis vrai. Justement, ils s'attendent à ce qu'il n'y ait pas de réponse.
Oui.
Mais il y a eu aussi encore récemment une vidéo... vous me dites si je me trompe, c'était une vidéo,
ça, oui.
Voilà, d'une femme,
une américaine
qui justement se filmait en train de subir ce harcèlement de rue et qui répondait avec des punchlines,
les massacres.
Et du coup, derrière, il n'y avait plus de réponse.
C'est ça.
En fait, je pense. Je pense que ce genre de personne qui balance des phrases comme ça avec de la vulgarité, c'est pas de la drague.
Oui.
C'est pas de la drague, c'est de la provocation. Voilà. Donc après, est-ce que c'est du harcèlement de rue ? Oui, bien entendu. Du moment qu'on se sent harcelé, bien sûr, c'est du harcèlement de rue. Mais avant tout, pour moi, c'est de la vulgarité et de la provocation. On l'a vu, les petits gars là qui disaient oh vas-y t'es un bon cul et compagnie. La fille, elle se retourne et dit ah ouais comme ma mère, ça te dit je te branche ma mère. Et le mec, il regardait, il disait quoi ? On m'a répondu, qu'est-ce que c'est ? Il était complètement perdu.
C'est pas toujours facile. Hein.
C'est pas facile parce que surtout, bon, là, elle a montré l'exemple avec des gars one shot
et des
tout
caméras
seul.
Aussi,
non, mais même tout seul, ils étaient tout seuls. Le souci, c'est qu'en France, c'est de plus en plus en bande où dès qu'il y a une réponse,
ça peut aller plus loin.
Ben, après, ben, là, y a plusieurs réponses à ça. La première, c'est le civisme, faire comprendre aux gens. Enfin, ce sont souvent des gens qui traînent très jeunes sans repère familial avec les potes, tout en testostérone. Ils captent pas quel est le... Y a personne qui leur a dit c'est ça la frontière. En plus, généralement, c'est des comportements qu'on voit dans les séries, dans les films, genre Fast and Furious, t'as un bon cul et du coup la fille elle tombe amoureuse. Ouais. Voilà pour eux.
Elle est objectalisée en fait.
Après qu'on soit clair, il n'y a rien du tout d'excusable là-dedans. Je veux dire,
comme on dit.
Je donne les causes, mais à aucun moment je dis c'est bien. Au contraire, il faudrait mettre peut-être un peu plus de tarte, des choses comme ça.
Comme on dit, après les causes sont pas au bon endroit. On est là à culpabiliser la femme, à dire mets-toi un pantalon, mets pas une jupe. Alors que normalement, il faut éduquer les hommes.
Oui, totalement.
Là où tu disais que c'est souvent des jeunes qui ont un contexte, qui n'ont pas eu de repères familiaux, tout ça.
Pas que. Hein.
Ouais, parce que j'ai une amie, elle attendait le tramway, c'est à quoi, il y a un mois de ça. Elle m'en parlait il y a un mois. Il y a quelqu'un qui ouvre la fenêtre, qui l'insulte, un truc grossier, je ne sais plus ce que c'était.
Sale pute.
Bon cul, sale pute, quelque chose comme ça. Et des mecs à côté qui étaient. Des gens de 40-50 ans à côté, sans marrer, quoi. Ils étaient mais morts de rire à côté, quoi.
Ouais, c'est parce que les gens en rigolent de prendre au sérieux, comme tout à l'heure on disait.
Sylvain, qu'on soit clair, moi je t'ai parlé de personnes qui n'ont pas forcément de repères familiaux, je t'ai pas parlé de caste sociale, hein. Je n'ai pas dit pauvre ou riche, hein. J'ai juste dit des gens qui traînent dans des niveaux de testostérone.
Oui, tu peux ne pas avoir de repères familiaux de n'importe quel.
Je veux dire, le collégien qui est dans les beaux quartiers, ses parents ils bossent de 6h du matin jusqu'à 23h le soir, ils s'occupent pas de leur gamin, il est tout le temps avec ses potes, il n'a pas ces repères là. Attention, je n'ai pas parlé de quartier défavorisé, qu'on soit clair.
D'accord.
Je ne ferai jamais l'amalgame entre barrière sociale et barrière d'éducation. Ça n'a aucun rapport. Au contraire, on a vu bien souvent à la fac de médecine, par exemple, lorsqu'il y a les bizutages, il y a des viols et compagnie, pourtant ce sont que des gosses de riches.
Est-ce que les médias le relayent? Est-ce qu'on en a conscience? Parce que c'est vrai que c'est un peu comme beaucoup de sujets, hein. Chaque sujet qui est traité, ça va être justement, on va faire l'amalgame. Oui, les gens qui harcèlent, les gens qui traînent dans la rue, on va vite faire l'amalgame.
Bah après, est-ce qu'on a conscience? C'est comme chaque problème que les médias traitent, ou comme tout le monde, c'est que c'est comme la culture du viol. On ne dit pas à un homme ne viole pas, on dit à une femme fais attention, essaie de ne pas te faire violer. On apprend aux femmes de ne pas se faire violer. Et c'est exactement pareil.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment le vivent les hommes, puisque tout à l'heure, les garçons disaient qu'il y a aussi du harcèlement envers les hommes.
Ouais.
Comment vous le vivez?
Alors, moi, ça m'est arrivé une fois. C'était à Paris, au Marais.
Cliché.
C'est très cliché.
Pas d'amalgame.
Mais c'est la vérité. C'était à Paris au Marais. J'ai subi du harcèlement de la part de. J'ai passé une semaine là-bas. J'ai subi du harcèlement de quelques hommes homosexuels, mais c'était vraiment très cru. Le langage. Allez viens, on va chez toi. Tu vas voir, on va se la donner, ce genre de truc. C'était la première fois que ça m'est arrivé. C'est la seule fois que ça m'est arrivé. C'était vraiment pas de l'humour. C'était très très lourd. Honnêtement, ça m'a. Alors, moi, j'étais scotché. Je savais pas quoi répondre parce que je me suis dit putain.
Donc, comme quoi, même les hommes.
Qu'est-ce qui se passe, quoi? Alors, après, le problème, c'est que je peux vite m'énerver, mais c'est sur le coup, j'étais. Mais voilà, sans mots, quoi.
Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que si une femme raconte qu'elle s'est fait harceler dans la rue et qu'on lui a mal parlé, on va dire oh, mais t'as qu'à en rigoler. Alors qu'un homme, quand il le vit lui-même, il n'en rigole pas. Donc, pourquoi est-ce qu'un homme dirait à une femme rigole-en?
Je vais te raconter mon histoire. À un moment, je travaillais sur des soirées homo, des soirées bear. Donc, c'est plutôt les ours. Grand poilu, fort, pas les crevettes. Et forcément, vu mon gabarit, ma gueule et compagnie, j'étais un peu leur mascotte, quoi. Et en plus, en tant qu'hétéro, oulala, oh, y a un hétéro à convaincre, dont ils étaient tous. Je suis passé par les trucs, les techniques de drague les plus lourdes, les trucs vulgaires et compagnie. Mais comme c'était des mecs, tu vois, moi, à l'inverse, j'ai tout pris bien, je rigolais avec eux parce que, il y avait une frontière qui était naturelle.
C'était bon enfant en même temps.
Oui, dans leur groupe.
Est-ce que c'est un contexte aussi? Tu les connais, t'es en soirée, c'était dans une soirée.
Non, tu les connais pas forcément, c'était dès le premier soir. Le harcèlement au travail, ça n'existe pas, donc.
Non, bien sûr.
Je croyais, excuse-moi. Non, mais parce que, pareil, si tu veux, on peut commencer à justifier que le harcèlement au travail, ça n'existe pas. Mais voilà, donc.
ma question, c'est justement ça. Est-ce que le contexte des trans-soirées t'a peut-être fait bien prendre les choses?
Non, non, non, parce que naturellement, même si un mec me branche, voilà, je vais en sourire. D'accord. Voilà, c'est parce que je vais bien prendre les choses. Eh bien, en revanche, quand je me suis fait brancher par des filles lourdes, ben, j'étais super mal à l'aise.
D'accord.
Ah ouais, c'est bizarre, mais voilà, devant une fille, j'étais mal à l'aise, je savais pas quoi faire en fait. Un mec, à la limite, s'il me gonfle trop, je peux lui mettre une grosse tarte dans la tronche, c'est fini. Mais voilà.
Ça,
mais,
c'est
mais,
charmant.
Mais une fille, je
On
sais pas.
On ne prône pas la violence sur LGECO.
Non, non, l'acte de défense patriotique, c'est différent.
C'est pas pareil. Je pense qu'il y a un autre truc aussi, je pense qu'il y a beaucoup de il y a des hommes aussi qui trouvent ça anormal et qui ne savent pas quoi faire quand, par exemple, ils voient une fille se faire embêter en bande. Parce que comme tu disais Panda tout à l'heure, maintenant, c'est carrément des bandes.
Oui.
Et ça passe de la violence verbale au départ, mais ça peut très vite tourner à la violence physique. Mmh. Et je pense qu'il y a certaines personnes qui sont là, qui aimeraient réagir. Et qui se voit face à une bande qui peut être armée, qui peut, on sait pas, hein, on sait pas.
Mais on imagine toujours le pire.
Et on peut, et je pense qu'il y a aussi cette partie-là qu'on n'entend pas forcément.
Comme la fille embêtée, elle est au milieu d'un groupe, ils se disent peut-être qu'elle fait partie de leur groupe et que c'est un jeu.
Ça arrive encore.
Ça peut arriver, ouais. Mais bon, je pense vraiment qu'il y en a certains qui aimeraient réagir.
C'est un petit peu de l'hypocrisie, quoi.
Oui, ça c'est un peu d'hypocrisie.
Mais de toute façon, dès qu'il s'agit de réagir tout seul face à un groupe,
c'est la peur.
En tout cas. Voilà. Ça, c'est vraiment donc, la frontière du harcèlement de rue. Ça, c'est apparemment, donc, comme vous disiez, le moindre mot déplacé sans attente de vrai jeu de séduction. Mais du coup, la drague, elle s'arrête où, en fait ?
La drague s'arrête du moment où il y a une réponse en face.
Du moment où il y a une réponse ou absence de réponse, carrément. C'est-à-dire, je t'ignore parce c'est que ça. J'ai pas envie de...
Mais
de
quelle... plus, quoi. Quelle phrase on dit pour draguer ?
Il n'y a pas de phrase.
C'est le regard.
Un mot vulgaire rigolo peut être bien placé. Quoi.
Oui, si c'est rigolo, ça peut être bien placé, c'est ça, comme tu dis.
Et puis
même de dire à une personne qu'elle est charmante et qu'on la trouve charmante n'est pas obligatoirement du harcèlement. Ça peut être de la drague, ça peut... Voilà,
ouais, après, tu réponds merci, bonne journée.
Voilà, au revoir.
Donc,
ça m'arrive souvent.
Tous les hommes, enfin, il faut dire aux hommes là, qui nous écoutent et qui draguent de cette manière en disant oui, t'es belle, même si les filles ne répondent pas et qu'ils arrêtent, il faut leur dire que c'est de la drague de faire ça.
Si tous les hommes faisaient ça, peut-être qu'il y aurait plus de réponses positives.
C'est justement là la BD de Thomas Mathieu. C'est là où tous les hommes sont vus comme des prédateurs. Il n'y a pas de frontière entre la drague et le harcèlement. C'est qu'au bout d'un moment, les femmes, elles se disent, et je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est qu'au bout d'un moment, on se dit, peu importe, tu es un inconnu, je ne veux pas que tu m'approches. C'est qu'on en arrive là. Et c'est là que
c'est sûr, parce que
ça
devient compliqué pour un homme justement de draguer une femme, mais aussi pour une femme.
Même
en tant que femme,
on s'enferme
on se dit,
dans notre propre monde. On est là, parce qu'on a peur. Tout le monde en veut. Ça devient complètement paranoïaque.
Ouais.
Et après, il peut y avoir le phénomène inverse. Je sais pas si vous êtes déjà allé à Montréal en voyage ou quoi.
Pas pour ma part.
Ok, Montréal, c'est ultra féministe, mais ça en devient carrément genre. Enfin, moi, j'ai eu un peu l'impression que c'est carrément le phénomène inverse. C'est-à-dire que voilà, c'est la fille qui va aller draguer, moi c'est un truc qui m'a marqué.
Aux Pays-Bas, c'est la même
chose.
Aussi,
oui,
aux Pays-Bas, c'est la fille qui décide de venir t'offrir un coup.
Ouais, c'est assez rigolo. Moi, ça m'est arrivé en boîte de nuit à Montréal. Une fille machin qui me dit on va boire un coup et je vais pour sortir mon argent. Elle me dit mais qu'est-ce que tu fais là ? Je dis ah bon, ok.
Et après, chez nous, comme les Français, nous aimons bien râler. Après, on est là à dire oui, les hommes, ils m'invitent plus. Il faut que je paye moi mon coup à boire.
Non, c'est pas vrai. Oh, non, moi, j'ai jamais dit ça.
Ah, on l'a souvent entendu. Et justement, de filles qui se réclament féministes et qui disent après mais pourquoi un mec m'offre pas bon, mais tu es féministe ou enfin,
je crois que de toute façon, la barrière, elle passe par le respect. Même dire une phrase comme tu es jolie, mais pas rajouter espèce de grosse pute derrière, excusez-moi le terme.
Carte les jambes ou machin,
je
voilà.
Je ne mettrai pas des bips. Je pense que ça passe par le respect. Et après, s'il n'y a pas de. Qu'est-ce qu'on peut dire aux auditeurs et aux jeunes maintenant, même pour les éduquer,
De se respecter.
De se respecter, c'est ça, c'est le maître mot, je pense.
Et d'apprendre le respect à leurs enfants.
Surtout.
Et de ne pas insister avec. Si la fille, elle dit non, après, le harcèlement de rue devient du harcèlement physique.
Il faut que ce soit un sujet qui soit traité dans le cocon familial. Ça, j'insiste, il y a de plus en plus de non-dits dans le cocon familial et ça n'aime pas.
Tout à fait.
C'est vrai.
Je pense qu'on va pouvoir en rester là pour aujourd'hui. N'hésitez pas, vous aussi, à nous écouter, qui nous écoutez, à réagir sur le sujet, sur notre page Facebook Radio GECO. On se retrouve jeudi 9 février pour la prochaine émission. Merci à toute l'équipe. Merci à Alice de nous avoir rejoints.
Merci Alice.
Merci de m'avoir accueilli.
Je voulais aussi remercier Monsieur Vakoviak, proviseur du lycée, de nous prêter le studio d'enregistrement.
Merci Monsieur Vakoviak.
Merci.
On se sent comme à la maison maintenant déjà.
Exactement.
Et aussi Marie-Laure Grand qui nous épaule beaucoup sur le projet. Voilà, donc restez à l'écoute car on vous réserve encore beaucoup de surprises en dehors de l'émission et on se quitte en musique avec Dionysos, Song for a Jedi de circonstance.
Oh. Bisous, ciao, au revoir.
Au revoir.
J'étais un Jedi, tellement nerveux que lorsqu'il pleuvait, souvent je m'électrocutais. Et j'ai rencontré une fille en forme de fée, tellement nerveuse que lorsqu'elle griffait, mon dos, ma peau se transformait en pyrogravure. I was a Jedi when